Europe 1,
midi 14h,
la France bouge. Raphaël Duchemin.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Europe 1 si vous nous rejoignez. J'ai une heure et demie pour vous montrer que oui, la France bouge, poussée par des hommes et des femmes de talent qui cherchent à inventer la société de demain. Un gros plan aujourd'hui sur un projet zéro déchet pour la salle de bain et un personnage virtuel qui va faire aimer les maths à nos enfants. Mathuit et Manamani vont-ils convaincre nos experts? Réponse dans la France bouge Académie. Comment mieux informer les Français des risques de toxicité de certains produits? La solution, une initiative signée 60 millions de consommateurs. L'association lance une appli avec financement participatif. Elisabeth Assayag nous en dira plus. 39-21, Twitter, on vous attend après Lubrizol à Rouen. Quel regard portez-vous sur la gestion des déchets dits dangereux? 3 spécialistes français seront avec nous pour expliquer et pour dialoguer. Et puis elle existe depuis 1894 et toujours une PME familiale, la Savonnerie du Midi. Et l'entreprise qui va bien, c'est ça la France qui bouge. Et c'est sur Europe 1.
Europe 1.
Bienvenue dans la France Bouge Académie. Ici, vous le savez, on a vocation à aider les jeunes pousses, à donner des conseils à ceux qui démarrent, à la challenger aussi, ou à leur dire si on pense tout simplement qu'ils font peut-être fausse route. Pour ça, une équipe est au rendez-vous. Bonjour Elisabeth Assayag.
Bonjour Raphaël Duchemin, bonjour à tous.
Et avec nous aussi un duo d'experts, Frédéric Mazella est avec nous, bonjour.
Bonjour.
Fondateur de Blablacar et Nicolas Brien nous a rejoint également. Bonjour.
Bonjour.
Directeur général de France Digital face à nous. Je vous présente Didier Paris. Bonjour.
Bonjour.
Et bienvenue. Vous avez 57 ans et vous aviez dans une autre vie déjà travaillé sur la réalité virtuelle dès 1996. Ouais. Mais aujourd'hui, vous êtes de retour avec W Kids et un projet en particulier. C'est celui dont on va parler, Mathuit. Ouais. C'est tout récent, ça a un mois à peine. Alors, quelle est l'ambition? Allez-y, top chrono, vous avez 1 minute 30.
Donc nous, on essaye d'inventer l'assistant vocal de demain. Aujourd'hui, avec des assistants vocaux comme Siri, par exemple, vous posez une question et vous donne une réponse. Notre vision, c'est un assistant qui vous engage dans un dialogue avec des émotions, un peu comme un être humain, en fait. Mathuit, c'est la première application d'éducation que l'on souhaite complémentaire de ce qui se passe à l'école, qui va, grâce à une technologie d'intelligence artificielle qu'on a mise au point, permettre d'interagir avec des personnages virtuels qui dégagent de l'affect, qui parlent et qui sont dotés d'une certaine intelligence. Et dans Mathuit, ce personnage virtuel, c'est un petit voyageur de l'espace, un petit alien tout bleu qu'on a appelé Léon. Voilà. Est-ce que ça vous est déjà venu à l'esprit de vous poser la question « Comment faire pour que mes enfants aient envie de faire des maths ?» Eh bien, c'est la mission de Léon pour les enfants 7 à 10 ans. Pour remplir cette mission, il va emmener vos enfants voyager aux quatre coins du monde en réalité virtuelle, mais également s'inscrire dans leur propre réalité grâce à la réalité augmentée. On lui a donné 3 objectifs. 1. Parler aux enfants de façon à leur fournir des contenus, leçons, exercices qui conviennent à leurs besoins, mais aussi à leur envie. 2. S'ils font des erreurs, les guider de façon à ce que ce soit eux-mêmes qui trouvent la bonne réponse. Et 3. Les engager pour s'améliorer en maths en montrant bien ses émotions.
Alors voilà pour la présentation de Mathuit. On va se tourner tout de suite vers nos experts. Frédéric, Nicolas, qu'est-ce que vous pensez des questions ou des remarques tout de suite, Fred ?
Oui, j'ai des questions simples, des questions plus compliquées.
Aïe, aïe.
Je vais commencer par la question simple. Non, pourquoi il s'appelle Léon ?
C'est le premier nom qui nous est venu à l'esprit. Après, il y en a eu plusieurs. Et à chaque fois, on revenait sur Léon. En gros, quand vous voyez le perso, Léon, ça lui va super bien. Donc, on a gardé Léon.
Il est avec nous, là, Léon, non ? Sur votre tablette. Hein. On va essayer de le voir en même temps. Ce serait formidable de voir exactement comment il nous fait voyager.
Donc rien à voir avec la pub Panzani des années 80, si on revient Léon, j'ai les mêmes à la maison.
Voilà, Léon est là, hop, Mathuit, on le voit sur les écrans si vous nous suivez sur europe1.fr. Le voilà, Léon, je vous le présente. Nicolas ?
Quelle est la différence entre Léon et un jeu vidéo de base ?
Il parle déjà, et on peut lui répondre.
Il faut s'approcher du micro.
Pardon,
excusez-moi. C'est mieux.
Il parle et on peut lui répondre.
Donc là, si je lui pose une question, il va me répondre. Si je lui demande combien
alors,
font
3x8... C'est lui qui va vous poser des questions.
D'accord.
Et c'est à vous de répondre. Et ça, on a pris un peu les choses à contre-pied par rapport aux assistants vocaux d'aujourd'hui. Où en gros, en premier, on doit poser une question. Et après, on a la promesse qui est quasi impossible à tenir d'ailleurs, c'est que l'assistant vocal va vous répondre quelque chose de pertinent.
Tu veux qu'on aille
Alors, par exemple, ça peut être quoi la question pour un enfant de 7 ans qui apprend l'étape de multiplication? Qu'est-ce que ça peut être?
Alors déjà, la première chose qu'il va vous demander à l'enfant, c'est est-ce qu'il veut relever un défi? Il en propose 3, bronze, argent, or. Et quand l'enfant a choisi l'un de ces défis, il va lui dire, par exemple, est-ce que tu veux qu'on aille faire des tables de multiplication sur la banquise? Ou bien réviser les multiplications à 2 chiffres sous l'eau au milieu des coraux.
D'accord, donc c'est à chaque fois dans un environnement ludique qui va le faire voyager.
Voilà, exactement.
Frédéric.
On a choisi des endroits bien particuliers, donc la forêt tropicale, sous l'eau au milieu des coraux ou dans la banquise.
Frédéric. Alors, la question un petit peu plus compliquée maintenant.
Allez-y.
Niveau du business model, c'est-à-dire le modèle économique, qu'est-ce que vous avez prévu? Est-ce qu'il est déjà enclenché? Est-ce qu'il fonctionne? Et ensuite, question subsidiaire, quelle est la concurrence sur ce marché-là?
D'accord. Alors, en termes de business model, donc il est déjà enclenché. En gros, vous téléchargez l'application et vous avez droit, pour une durée illimitée, d'utiliser des contenus gratuits. Donc ça, c'est l'aspect produit d'appel. Et derrière, pour pouvoir avoir accès à tout le programme de maths de Léon, 48 étapes d'une semaine avec des centaines d'exercices, abonnement mensuel, semestriel ou annuel.
D'accord, mais c'est les parents qui payent.
C'est les parents qui payent et c'est eux notre principale
cible. Ça veut dire que ça va remplacer le prof de maths?
Non, surtout pas, oulala. Non, ça va
les
permettre...
Les cours de soutien à la maison.
Oui, exactement. C'est ça. C'est faire du soutien scolaire à la maison dans un environnement ludique.
Ah bah là, c'est beaucoup mieux dit, hein, parce que on veut recréer le Siri qui parle avec des émotions et on veut créer le soutien dans un environnement, le soutien scolaire dans un environnement ludique. C'est beaucoup plus clair.
Ah bah merci. Maintenant, c'est vrai aussi que Siri existe, tout le monde sait ce que c'est. Et donc, c'était pour donner une accroche sur quelque chose qui existe.
Oui, sauf
mais
que
niveau
là,
modèle
c'est
économique,
français.
C'est forcément différent. Et puis en plus,
forcément.
Ce niveau but, c'est effectivement pas uniquement un mode d'information, mais c'est un mode d'éducation. Donc, ça va beaucoup plus loin.
Tout
et
fait.
Alors justement, niveau concurrence, parce que je peux pas tellement croire que vous soyez seul. Enfin, je connais pas malheureusement
si vous trouvez quelque chose qui ressemble, même de loin, à ce qu'on fait, ça m'intéresse.
Bon. Nicolas ?
C'est notoire que les petits Français ne sont pas les meilleurs en mathématiques à travers l'Union européenne ou à travers
c'est
le monde.
Études, hein, qui disent
on
ça.
Est mauvais
effectivement,
hein, dans les
il y a des classements internationaux qui le montrent. Votre produit, il est en français.
C'est... Et en anglais. Et j'allais presque
d'accord.
dire surtout en anglais.
D'accord. Et donc, vous visez à terme un marché qui est mondial ou,
alors, aujourd'hui,
ou juste francophone?
On vise les États-Unis, les pays anglo-saxons et les pays francophones. Maintenant, c'est vrai que demain matin, il faut localiser l'appli, il faut l'enrichir, faire du test and learn pour pouvoir adresser plusieurs types d'autres cultures et de langues. Sachant que le gros morceau, c'est quelque chose qui, pour moi, en tout cas, n'est pas envisageable aujourd'hui, c'est la Chine, le Japon, l'Asie.
Pour l'instant, mais
pour
qui
l'instant.
Sait, demain peut-être. En tout cas, ça n'a
avec
qu'un
un
mois, ça s'appelle Matuit. Vous êtes convaincu par la nécessité, Frédéric, Nicolas?
Moi, j'ai toujours un petit doute sur effectivement la différence entre le jeu vidéo et l'intelligence artificielle. C'est peut-être pour ça que tout simplement ce produit n'existe pas.
Ouais.
Et puis, en revanche, il y a un truc qui me convainc bien, c'est l'ambition. Parce qu'effectivement, les maths sont probablement un langage international. Et c'est donc
seul, hein.
un marché international.
On va vous faire jouer tout à l'heure avec Léon. Vous allez voir, à mon avis, vous serez convaincu.
Par les résultats.
On reste ensemble sur Europe 1. Il est midi 39.
Europe 1.
Et on va changer d'univers, on s'invite dans la salle de bain, version zéro déchet, un défi relevé par Mana Mani. A tout de suite. La France Bouge Académie, c'est le rendez-vous des jeunes entrepreneurs. Vous souhaitez nous rejoindre dans ce studio pour nous parler de votre projet. Écrivez-nous à l'adresse mail suivante e1-lafrancebouge@europe1.fr ou via Twitter @Europe1Raphaël. Et ce projet, c'est peut-être vous hein, qui viendrez le défendre demain au micro d'Europe 1, comme le fait aujourd'hui Timothée Wallard. Bonjour.
Bonjour Raphaël.
Merci d'être avec nous.
Merci
vous avez fondé Mana Mani avec votre femme. C'est en rentrant, je crois, des Émirats Arabes Unis où vous avez vécu que le déclic s'est opéré. Vous allez nous dire pourquoi vous avez aujourd'hui décidé de faire du zéro déchet dans la salle de bain. Vous avez une minute trente.
Et ailleurs. Merci Raphaël. Alors effectivement, avec ma femme, un jour, on s'est demandé que devenaient nos déchets une fois qu'on les déposait en bas de chez nous. Et en fait, on a réalisé que particulièrement sur le recyclable, tout n'était pas recyclé. Que sur du plastique en particulier, on n'avait que 30% de capacité de recyclage. Et une paille qui était fabriquée à l'autre bout du monde, elle allait être utilisée 2 minutes et avait grande chance de se retrouver dans un conteneur et de repartir à l'autre bout du monde où on ne maîtrisait pas trop sa fin de vie. Et donc ça nous a amené comme solution de dire mais le déchet, évitons-le. Le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne produit pas. Et donc, le zéro déchet en soi, ça peut faire peur. Ça peut être exigeant. C'est peut-être nécessaire vu l'état de notre planète. Mais on s'est dit, faisons-en quelque chose de vraiment désirable, d'enthousiasmant. Et donc, on a créé Manamani qui propose des produits pour se mettre dans la démarche, des produits qui soient faciles, agréables à utiliser. Alors facile, c'est parce qu'ils s'inspirent du jetable. On ne change pas le geste, on le rend juste un peu plus durable. Et agréable parce que c'est des produits qui vont nous accompagner toute la vie. Et donc, il faut que ce soit joli, que ça s'intègre bien dans notre intérieur. Et quitte à faire des produits zéro déchet, on avait vraiment envie d'être 100% cohérent et d'aller au bout de la démarche. Donc tous nos produits sont fabriqués avec des matières naturelles et bonne pour la peau, bonne pour la planète, et dans des ateliers français, et la plupart des ateliers d'insertion. Voilà, quelques mots, Manamani.
Voilà pour le pitch, on est en dessous de la minute 30. On a vu, hein, pendant que vous vous exprimiez sur Europe1.fr, un produit, c'est pour ça que j'ai parlé de la salle de bain, parce que je crois que c'est le produit avec lequel vous avez démarré, c'est le ouais, démaquillant, le kit de démaquillage.
Exactement, c'est un produit qu'on a vraiment imaginé jusqu'au bout, il est breveté. Et il permet à une femme de rentrer dans la démarche de façon facile. Alors vous avez un petit pochon qui est en lin, qui a poussé en France,
oui,
qui a été filet tissé pas très loin de chez nous, et qui est assemblé le tout en France dans des ateliers d'insertion. Et ça permet de se mettre au coton démaquillant lavable le plus facilement du monde. Alors on l'attrape par en dessous, on s'en sert, on le remet par au-dessus dans un filet de lavage qui part avec les machines du quotidien. Voilà, vous lavez vos chemises et ça avec à 30, à 40, et vous n'achetez plus et surtout vous ne jetez plus de coton.
Que disent nos experts, Nicolas, Frédéric?
Moi j'ai une question d'abord au niveau de la marque. En fait, je suis passionné par les marques et leur impact. Je trouve que votre marque ressemble beaucoup à une autre marque qui s'appelle Mano Mano qui
fait du bricolage. Qui, on l'a reçu ici sur Europe 1.
Bien sûr, mais je trouve que c'est étonnamment proche en fait, et je ne sais pas dans quelle mesure vous allez pouvoir naviguer ensemble avec ces deux marques sur le même marché.
On n'a pas eu trop de collusions sur ça à ce niveau-là, pas eu trop de retours. Notre marque, ça veut dire Mana demain en espagnol, mañana, et Mani les mains en italien, parce que on revient à des choses plus simples. Et alors ça a son sens pour nous. Voilà, c'est.
Comment est-ce qu'on peut coexister avec des plus grands qui sont aussi positionnés sur ce marché? Je pense par exemple à l'Amazona.
Je pense qu'il y a un marché vraiment pour tout le monde. Il y a le zéro déchet, c'est un mode de consommation qui s'ouvre, qui démarre. Et aujourd'hui, je pense qu'on se marche pas dessus. L'idée, c'est surtout de convaincre un maximum de se mettre dans cette démarche. Et tous ceux qu'on arrivera à convaincre, ce sera nos clients. Et je pense que on peut très bien cohabiter.
Nicolas?
C'est une solution qui va faire beaucoup de bien à l'environnement. Mmh. Et après, moi, je me suis posé la question de la cohérence. C'est-à-dire que dans le monde d'avant, on mettait tout dans nos poubelles avec des déchets qui partaient au bout de la planète. Visiblement, le monde que vous nous proposez, c'est de tout mettre dans notre machine à laver et de faire tourner encore un peu plus nos machines à laver. Est-ce que vous avez pensé au bilan en eau de vos produits?
Alors, moi, je suis ingénieur de formation. Donc, c'est la première objection que j'ai faite à ma femme quand on s'y est mis. Mais on compare quelque chose qu'on va jeter avec quelque chose qu'on va laver. Et donc, en bon ingénieur, j'ai voulu chercher justement quel était le plus écologiquement responsable. Et alors, il existe pas mal d'études qui s'appellent des analyses de cycle de vie, qui permettent de détailler sur un usage tous les entrants, ce qu'on utilise en eau, ce qu'on rejette en gaz carbonique, l'acidification des sols, les océans, etc. Et j'ai comparé ça à l'usage du lavable. Alors, il y a un article dans notre blog qui s'appelle Lavable versus jetable, où tout est détaillé, tous nos calculs, nos sources. Et dans tous les cas, alors à moins que vous achetiez tous les produits pour ne l'utiliser que 3 semaines, le lavable est beaucoup plus écologique que le jetable.
Combien de produits vendus aujourd'hui?
Aujourd'hui, on a à peu près une gamme de entre 15 et 20 produits. Et des kits démaquillants, on en a vendu presque entre 3 et 4 000 depuis un an.
Que disent nos experts, convaincus ou pas par l'expérience, parce que le temps file malheureusement?
Oui, c'est difficile d'être convaincu sans en voir les chiffres, en fait, effectivement, de l'impact environnemental, puisque c'est ça la mission, de savoir si effectivement les produits sont utilisés suffisamment longtemps pour compenser le fait que d'autres produits qui pourraient être moins chers à produire sont utilisés autant de temps. Évidemment, ça va dans tous les cas dans le bon sens, avec une très bonne démarche, mais c'est un petit peu la même chose quand on parle de tous les sacs réutilisables. Il faut savoir combien de fois on va vraiment utiliser un sac réutilisable pour compenser tous les sacs jetables.
Oui. Alors, tout à fait. C'est pour ça que notre idée, c'est vraiment de proposer des produits qui soient les plus pratiques et les plus agréables possibles à utiliser pour que justement cette démarche puisse être pérenne. Et c'est ça qui est important pour nous.
Allez, le mot de la fin, Nicolas.
Le mot de la fin, c'est n'attendez pas juste que tout le monde se jette sur votre site internet. Il est magnifique, il est très joli, très clair. Peut-être aller attaquer directement de la grande distribution et des réseaux de magasins pour effectivement voir comment on peut améliorer vos chiffres avec des ventes en hausse.
Tout à fait.
Et vous nous donnez des nouvelles très rapidement.
Ça marche. Merci beaucoup.
Merci à vous d'être venu sur Europe 1. Merci à Nicolas qui était avec nous aujourd'hui.
Il est midi 49.
Europe 1.
On reste ensemble et on va s'intéresser à une initiative qui pourrait bien être la solution pour nous informer sur la toxicité des produits de notre quotidien. Elle est signée 60 millions de consommateurs. À tout de suite.